Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Pascal Marcadji.
La bande Velcro, les ampoules LED inspirées des lucioles, les verres de plage pour se substituer à notre hémoglobine alors que les hôpitaux manquent de sang, le ciment auto-réparant. Eh bien voici autant d'applications du biomimétisme, s'inspirer de la nature pour innover durablement. Tel est l'avis très novateur, adopté à l'unanimité par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Un avis que lui a soumis sa section environnement et qui ne devrait pas rester lettre morte, tant cette imitation de la nature s'inscrit dans la transition écologique. Patricia Ricard, rapporteur de cet avis.
Le biomimétisme peut devenir un remarquable outil pour nous accompagner et nous inspirer des innovations durables. Le constat est tout simple, la nature est de fait durable. Toutes les espèces qui existent encore aujourd'hui ont par définition réussi leur transition énergétique et écologique. Ensuite, la nature est incroyablement ingénieuse en matière d'économie d'énergie, économie d'eau. Il y a vraiment une compétence et une excellence que l'on peut aujourd'hui extraire de la nature, non pas en l'abîmant ou en la pillant, mais en l'observant et en l'étudiant. Nous avons aujourd'hui des moyens d'observation, notamment à l'échelle nanométrique, qui nous permet de comprendre un petit peu comment le vivant bâtit ses matériaux, comment le vivant organise ses procédés, comment la biologie s'adapte à toutes les situations et comment la nature met de l'intelligence et de la puissance et de la dynamisme dans la forme. Voilà. On est vraiment au cœur du design. Le design naturel, c'est le vivant et ça peut nous prendre par la main pour aller bien plus loin en faisant bien moins mal.
La nature ne produit pas de déchets, elle n'utilise pas non plus de matériaux rares. Mieux, elle utilise le carbone comme matière première de base quand ce carbone nous est devenu un problème majeur.
La nature utilise très peu de matériaux. Si vous prenez le tableau périodique de Mendeleïev, la nature utilise ce qu'on appelle les champs, c'est-à-dire six éléments principaux qui sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le P, je pense que c'est phosphore ou potassium, je ne suis pas biologiste, pardonnez-moi, et le soufre. Le carbone vient en tête, c'est-à-dire que la nature ne produit jamais quelque chose en se basant sur un matériau rare. Nous avons organisé la rareté de nos ressources en marché. C'est la base même de nos marchés. La nature ne produit jamais en se basant sur des matériaux rares. Or, le carbone, c'est absolument présent. Et la nature est la seule qui, à ce jour, va chercher le carbone dans l'atmosphère pour structurer son vivant. Que ce soit les coquillages, que ce soit les coraux, que ce soit l'arbre, que ce soit même vous, les poissons pour faire leur squelette. Enfin, le carbone, c'est le Lego du vivant. Il n'y a que nous qui en avons fait un problème.
Alors, que préconise le CESE? Donner de la visibilité au biomimétisme, donner des moyens au Cébios, le centre d'excellence du biomimétisme, et se défaire de quelques freins.
Ce sont des propositions d'accompagnement puisque le biomimétisme est émergent, mais cependant très présent, notamment dans les entreprises, dans les labos, dans les industries. Donc en fait, nous on préconise essentiellement d'abord de donner de la visibilité. Le mot biomimétisme ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Les Allemands vont parler de bionique, certaines personnes vont parler de bioassistance. Donc bien définir son champ et sa nature, sachant que pour le CESE et dans cet avis, nous tenons à une exigence de durabilité. Pour nous, le biomimétisme a et doit avoir l'exigence de la durabilité dans son champ et dans sa nature. Deuxièmement, nous proposons de structurer la filière. Il faut une plateforme de compétences et de connaissances. Et ça, nous proposons d'amorcer le CEBIOS, le Centre européen d'excellence de biomimétisme de Senlis, qui est à ce jour la seule initiative qui a déjà fait ce petit travail de structuration. Il lui faut un amorçage financier. Le CEBIOS est trop modeste et son potentiel est trop grand. Ensuite, nous proposons de lever les freins. On le retrouve beaucoup, notamment sur la permaculture, pour revenir à l'agriculture, qui n'existe pas, puisque dans la PAC, si vous faites moins de 3 hectares, vous n'existez pas. Une ferme permaculteur, elle, ça peut se faire sur 600 mètres carrés. En plus, le biomimétisme étant transverse, il est très difficile de voir dans quel cas on le met. Si vous allez proposer un financement de projet biomimétique, on va vous dire maintenant, mais ça c'est de la recherche, non, ça c'est de l'agriculture, non, ça c'est de la biologie. Donc voilà, il faut identifier le biomimétisme pour qu'il puisse apparaître dans les endroits où on lèvera à la fois les freins et en plus on pourra amorcer les financements.
Autre préconisation encore, faire bien sûr entrer le biomimétisme dans l'enseignement.
Si ce sont les nouveaux métiers de demain, il faut que ça devienne les cours d'aujourd'hui et surtout cette transversalité va modifier notre approche de l'enseignement. On doit faire des plateformes d'excellence et des interactions et pour rapprocher les études de la recherche privée et de la recherche publique. Et puis, il va falloir agréger cette connaissance sur les systèmes d'information. On pense que le Muséum d'histoire naturelle, qui à travers ses sciences participatives et son site de connaissances numériques, pourrait être une partie prenante tout à fait légitime dans cette aventure de numérisation. Et puis, surtout, nous allons proposer d'utiliser le biomimétisme pour renouer avec la biodiversité, parce que maintenant que nous commençons à savoir que nous pouvons lire le vivant, ça serait dommage de continuer à brûler la nature.
Autre exemple encore de biomimétisme, les manchots. Les manchots transportent pendant 3 semaines dans leur estomac du poisson à une température de 37 degrés pour nourrir leur progéniture. Or, ce poisson ne se dégrade pas grâce à une protéine aujourd'hui utilisée comme anti-rejet dans les transplantations humaines. Mais il y a aussi l'éponge marine qui, elle, fabrique fabrique du verre pour le moins à froid.
Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la corne de Vénus, qui est une petite éponge marine qui est très profondément ancrée sous des eaux très froides. Hein. On est dans des latitudes arctiques, à des eaux entre 3 et 5 degrés. Elle est toute seule dans le noir avec les pieds dans le sol. Et elle va faire une structure tubulaire qui ressemble un peu au chescané de notre enfance. Et en fait, cette structure, elle est incroyablement résistante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous épluchez n'importe quel building dans le monde fabriqué depuis moins de 10 ans, il reproduit cette structure parce que c'est le meilleur rapport légèreté, souplesse, résistance. Elle va également tout simplement synthétiser du verre puisqu'elle va récupérer le silicium qui est dans le sable, mais elle le fait sans chauffer, sans pression. Et en plus, cette petite éponge, elle fait ça juste pour capturer deux crevettes qu'elle va manger tout au long de sa vie. Et les Asiatiques aiment beaucoup cette crevette puisque quand on la trouve morte, elle a deux petits squelettes de crevettes dans son sein et c'est un symbole de fidélité.
Le CESE a donc voté à l'unanimité l'avis de sa section environnement sur le biomimétisme. Cesser d'être en contradiction avec la nature pour préférer s'en inspirer, il faut y voir une belle avancée du côté de la société post-carbone.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.